la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
Los Angeles, 26 septembre 2009. En face de lui, ce soir-là, celui que tous surnomment « The Nightmare », l'homme n'est pas n'importe qui. Vainqueur des National Golden Gloves à 20 ans en 2001, le mexicano-américain est précédé par sa réputation. Une pugnacité constante sur le ring. Des coups à terrasser un cheval. Une allonge qui surprend parce qu'elle provient moins de la longueur des bras que de l'envergure des épaules. 1,93 m de rage, de hargne et de haine. Chris Areola est de ceux qui préfèrent mourir sur le ring que perdre un combat. Depuis qu'il est passé professionnel et qu'Henry Mendes l'entraîne, The Nightmare enchaîne les victoires. 21 consécutives, pour être précis, dont la plupart ont été obtenues par KO. Il y a tout juste 2 ans, le 21 septembre 2007, il a remporté le titre continental américain WBC en se défaisant de Thomas Hayes en moins de 10 minutes. Un uppercut magistral du gauche et le champion noir de l'Illinois est allé valdinguer dans les cordes avant de s'effondrer. Victoire sans appel au 3e round. Depuis, rien n'a pu contrer Areola. Il a défendu sa ceinture à 4 reprises et il a même gagné le titre nord-américain NABF contre Travis Walker le 29 novembre 2008. Ce soir-là, le vent a pourtant bien failli tourner lorsque le champion est parti au tapis au 2e round. Mais il s'est relevé, la rage au ventre, son œil noir de tueur pointé sur l'adversaire avec la volonté de venger l'affront qu'il venait de subir. Victoire par chaos technique au round suivant, qui dit mieux. Ce soir, The Nightmare est devant son public et il veut, il va, devenir champion du monde des poids lourds. Contre lui, un Russe, grand type dégingandé, qui en prendra plein la tronche. De toute façon, la boxe n'est pas slave. Elle est américaine, afro-américaine, portoricaine, mexicaine, cubaine à la limite, mais un Ruskov, ça, non, jamais. Les blancs de type caucasien font pâle figure sur le ring. L'autre est plus grand et plus titré, puisqu'il s'est emparé à plusieurs reprises de la ceinture de champion du monde poids lourd, de la WBO et de la WBC, mais il a 10 ans de plus que lui et il avait déjà annoncé son retrait des rings en 2005, après une rupture du ligament croisé antérieur. 3 ans sans combattre, un passage sur le billard, des mois à gamberger pour savoir si l'on est ou non fini. Et puis un comeback l'an dernier et la ceinture reprise à Berlin par une victoire sur le Nigérian Samuel Peter. Chris Areola n'a jamais pensé que le combat serait facile, mais il est certain que l'histoire est de son côté. Lui est invaincu, l'autre ne l'est pas. À 28 ans, il est l'étoile montante de la boxe américaine, celui que rien n'arrête, tandis que son adversaire approche doucement de la quarantaine. Un vétéran qui aurait mieux fait de rester au coin du feu, dans son isba. Oui, Areola en est sûr, le Russe va bientôt regretter son voyage à Los Angeles. Le Staples Center sera son tombeau. Sa seconde retraite définitive, celle-ci, commence à l'issue du combat. The Nightmare est le premier à monter sur le ring. Crâne rasé, visage glabre, œil volcanique. Il lève le poing en direction du public dans l'aréna chauffée à blanc. Combien sont-ils à hurler son nom, lui, l'enfant prodige de la boxe? 10 000, 12 000, 15 000 spectateurs peut-être, tous acquis à sa cause. Ce soir, c'est tout un peuple qui reprendra le titre aux Russes. On n'arrête pas Areola. Ce que le champion américain ne voit pas, c'est l'entrée dans l'arène de son adversaire. Buste droit, visage impassible, mâchoire serrée, regard rivé devant lui, l'homme avance en direction du ring. Il est si grand, plus de 2 mètres, qu'il est obligé de se casser en deux pour passer sous les cordes. La tension monte d'un cran. Sous le feu des projecteurs, dans le crépitement des flashs, Areola retire sa tunique, dévoilant l'aigle aux ailes déployées qui est tatouée dans son dos, tandis que le speaker mugit le nom des 2 athlètes qui vont bientôt s'affronter.
Cristobal Areola, Vitali Klitschko.
Quand le gong retentit, le boxeur américain se place d'emblée au centre du ring. Ce territoire, c'est le sien. Son règne débute sur ses planches. Déjà, Klitschko tourne autour de lui, obligé d'esquiver les premiers coups qui partent avec une force surprenante. Areola avance de deux pas, pivote d'un quart de tour à droite, à gauche, puis de nouveau à droite avant de tenter une de ces saillies dont il a le secret, mais l'autre déjoue le coup. Qu'importe, le moment viendra décisif, fatidique. Pour l'heure, Areola est le pivot du combat, celui qui ne se laisse pas désaxer et qui oblige l'autre à faire trois fois, quatre fois plus de pas que lui en opérant de grandes courbes pour échapper à ses poings. Klitschko est grand, plus grand que lui. La voilà sa chance. Briser la distance qui le sépare du Russe, entrer dans le moulinet de ses bras, passer sous sa garde et lui balancer un uppercut qui viendra secouer son immense carcasse. Klitschko a compris. Son visage est toujours impassible, mais ses bras s'ouvrent et quittent leur poste défensif. Bon sang, que fait-il ? Le voici qui baisse la garde comme s'il n'avait pas besoin de protéger sa tête. Pis encore, les bras de Klitschko ballent le long de son corps, goguenard et chancelant, comme le ferait un idiot qui demanderait à prendre des coups. L'occasion est trop belle. Areola se rue sur lui avec l'intention de lui en mettre plein la courge. Mais Klitschko s'écarte, Klitschko esquive, Klitschko s'éclipse. Le poing de l'Américain est parti dans le vide. L'instant d'après, le Slave danse à nouveau autour du King de Los Angeles. Cette fois, son visage est ostensiblement découvert, comme s'il ne servait à rien de le protéger. Areola, lui aussi, a compris. Klitschko se moque de lui. Klitschko le provoque. Ses bras, qui twistent devant lui, sont comme un sourire ironique, une facétie qui vise à ridiculiser l'Américain devant son public. Attends un peu, Ruskov. Attends que je fasse mouche. Cette fois, le poing d'Areola n'est pas parti dans les airs. Il a touché sa cible juste avant que la cloche ne retentisse. Entre deux rounds, le staff s'affaire autour de Vitali Klitschko. Oui, il a été touché au front, et les onguents qu'on lui applique peinent à dissimuler le coup qu'Areola lui a porté. À la reprise, c'est sûr, l'autre se méfiera. Fini les pantomimes. Continue comme ça, Chris, lui glisse dans l'oreille Henry Mendes. Maintenant, le grand va devoir se méfier. Je te fiche mon billet qu'il surveillera sa garde. Au début de la cinquième reprise, c'est pourtant le contraire qui se produit. Vitali Klitschko fait mine de tendre le front en direction d'Areola. Les bras le long du corps, dos de ligne en du chef, comme pour lui dire « Où vas-tu frapper cette fois ? À droite ? À gauche ? Plein centre ? Allons, vas-y, je suis là, ne te gêne pas, tous les coups sont bons à prendre. Qui sait, tu me toucheras peut-être encore ?» Areola avance, mais un bras tendu à hauteur de sa poitrine le maintient à distance. Un bras qui brasse l'air sans vraiment chercher à frapper. Un bras d'escarmouche, un bras d'échauffouré qui trifouille plus qu'il ne cogne. Un bras presque flegmatique qui vient agacer sans vraiment chercher à faire mal. Voilà que la provocation recommence. Une provocation des bras qui contraste avec le visage impavide, presque stoïque, qu'Areola a devant lui. La parade, l'Américain la connaît. Il faut reprendre le mouvement à son compte, aller plus vite, plus loin, bouger, se décentrer, casser la distance qu'impose ce bras, la briser comme on briserait une barrière, puis entrer dans le cercle où tout devient possible. La tactique est bonne. Klitschko recule. Un pas, trois pas, dix pas. Le voici dans les cordes. Attends de voir, mon vieux, ton insolence, tu vas la payer. Un instant, Klitschko semble en difficulté. Son bras gauche, ce bras qui fourraillait l'espace, vient soudain de se replier. Il se déporte sur le côté, opère un quart de tour, sort de la zone de danger, puis d'un coup, lâche un crochet du droit d'une vivacité inouïe qui touche le visage de son adversaire. Un coup, deux coups, trois coups que l'Américain n'a pas vu venir. Le grand est rapide, plus rapide que sa longue silhouette ne le laisse supposer. Désormais, ce n'est plus un boxeur, mais un taureau que Vitali Klitschko a devant lui. Son encolure énorme tendue vers l'adversaire, il fonce et il enrage, il éructe et fulmine. Il ne reculera plus. À la neuvième reprise, entamé et meurtri, il se lève d'un bond et frappe de son poing sa poitrine comme pour dire « J'irai jusqu'au bout, à la vie et à la mort ». N'attend de moi aucun répit, il n'y aura ni accalmie ni trêve dans cette lutte. Tiens-le-toi pour dit, bolchevique, je préfère mourir sur le ring que de m'incliner devant toi. C'est maintenant que ton cauchemar commence. Face à la tempête, qui se déchaîne, Klitschko déploie la même agilité défensive. Il se déplace, ouvre et referme des angles, tient le cogneur en respect, refusant de céder à l'emballement qui lui est proposé. Face à la furie meurtrière du taureau qu'il a devant lui, concentration et lucidité, art de la feinte, mouvements incessants. Les 110 kilos de Vitali se meuvent sur le ring avec une facilité déconcertante, tandis que la bête blessée fonce avec l'assurance qu'un seul coup bien placé peut suffire à faire tomber le champion du monde. Que dit maintenant ce bras gauche avec lequel Klitschko calligraphie l'espace qui sépare les combattants ? Tu le vois ? Mon allonge est supérieure à la tienne. Je te tiens à distance, Nightmare. Et sauf à me briser les bras, tu ne passeras pas, tu n'entreras pas. Ah, l'insolence du poids lourd qui danse entre les cordes. Tandis qu'il touche et retouche Areola au visage, écrasant le nez massif de l'Américain, Klitschko sent qu'il se bat pour une terre, un pays, une nation. La limite que circonscrivent ses poings est une frontière. Tu ne la franchiras pas impunément, disent ses bras. Je te renverrai d'où tu viens, renchérit le crochet du gauche. Ne cherche pas à pénétrer chez moi, tu n'y trouverais que riposte et réplique. Je ne veux pas la guerre, mais s'il faut la faire pour défendre mon territoire, alors je la ferai et je vaincrai. À la fin du 10e round, tandis que le combat touche à son terme, Vitali Klitschko martèle des syllabes sur le corps de son adversaire. Elles s'y écrasent, y gravent leur empreinte entre les tatouages tuméfiés. U, K, R, A, I, N, A, U, K, R, A, I, N, A. Je ne suis pas russe, entends-tu ? Je ne suis ni russe, ni bolchevique, ni soviétique. Toi, tu es mexicain, tu es américain, tu es The Nightmare. Moi, Vitali Klitschko, je suis ukrainien. À l'issue de la 10e reprise, dans le Staples Center de Los Angeles, où les scansions au nom de Cristobal Areola se sont tues, en cette soirée du 26 septembre 2009, Henry Mendes met un terme au combat tant le visage de son boxeur est meurtri. Le compte-rendu officiel du combat fera état d'un chaos technique au 10e round, un record, puisque sur 38 victoires, Klitschko en a obtenu 37 par KO. Vitali Klitschko, Klitsch, Klatsch, KO. C'est la chronique Je lire sur Jet FM et vous venez d'entendre une lecture du tout premier chapitre du livre Indomptable de Bruno Doucet. Indomptable, qu'on écrira au pluriel. Le livre vient de sortir aux éditions Emmanuel Collat pour 19 euros. Je connaissais le travail de Bruno Doucet en tant qu'éditeur, puisqu'il a une très belle maison de poésie qui publie notamment des autrices parfois un peu oubliées ou invisibilisées, et c'est un très très beau catalogue. Mais je ne connaissais pas son travail d'écrivain. Il s'agit donc d'un roman, d'un récit qui raconte quelques indomptables, dont ce Vitali Klitschko qu'on retrouve dans les quelques chapitres suivants. J'en suis au tout début de ce livre qui compte quelques 240 pages et j'en ai lu une petite cinquantaine. Mais d'emblée, par le jeu de différentes époques et de différentes localités, on voit que se tissent, que s'entremêlent quelques fils de différents récits d'indomptables. C'est comme les pièces d'un puzzle qu'on recompose au fur et à mesure de la lecture. Et comme vous l'avez entendu, il y a quelque chose de très dynamique dans l'écriture de Bruno Doucet. Il sera l'invité de la très belle librairie La Géothèque à Nantes le mardi 11 juin prochain et j'aurai le plaisir de m'entretenir avec lui. C'est l'une des raisons pour lesquelles je lis ce roman. On pourra donc détailler un peu plus de l'écriture de Bruno Doucet et de ses indomptables dont il aime adresser le portrait dans ce livre que je vous recommande chaudement. Vous l'avez bien compris, il s'agissait de boxe. Plusieurs choix sont possibles pour une petite sélection musicale qui accompagnerait cette chronique Je lire. On pourrait écouter Jack Johnson de Miles Davis, déjà passé ici, mais pourquoi pas Hurricane de Bob Dylan qui pourrait faire sens tout également. Juste avant d'écouter la musique, j'en profite pour vous donner d'autres informations. Si vous êtes du côté d'Anceny, ce week-end, il y a le très bon festival Les Affluents qui a lieu tous les deux ans et qui propose de détailler, de rencontrer un peu de la littérature et des productions littéraires de la région des Pays de la Loire. À la fois les éditrices et éditeurs qui publient de nombreuses choses dans différents registres et puis des autrices et auteurs. Et j'aurai le plaisir notamment de m'entretenir avec deux garçons dont j'ai particulièrement aimé le travail autour de l'adolescence masculine, Adrien Giraud pour Juste un coup dur et Clément Rossi pour La Voix d'homme. Ensemble, ils dialogueront, discuteront de leurs écritures autour de ces masculinités contrariées. Et puis, Il y aura aussi des apéros sensoriels en compagnie de la poétesse Alban Gelé et de l'auteur de bande dessinée Gwen de Bonneval. Voilà pour ce qui me concerne, mais il y a bien d'autres choses dans le festival Les Affluents dont vous pouvez trouver les détails sur Internet, évidemment, avec le programme. Bob Dylan, Hurricane, pour illustrer cette chronique autour des Indomptables de Bruno Doucet.
Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. A middleweight crown had no idea what kind of shit was about to go down when a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car without upstate plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, he told him he could identify the guilty man. America fighting for his name. Well, after Dexter Bradley's still in the robbery game, and the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. Think you'd like to play ball with the law. Think it might have been that fighter that you saw running that night. Don't forget that you are white. Dexter Bradley said, I'm really not sure. The cop said, a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job, and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to
fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Reuben could take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, and I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise, where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse, where they tried to turn a man into a mouse. Were marked in advance. The trial was a pig circus. He never had a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards from the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Nigeria agreed. Carter was falsely tried. The crime was murder one. Guess who testified? Bello and Bradley, and they both all they lied. And the newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is again. Criminals in their coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise. While Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of